Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Au revoir, Julien Chiez.
Et d'ATH.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Hellblade. Nous enchaînerons ensuite sur le débarquement surprise de Bayonetta sur PC. Nous parlerons de Nintendo qui stoppe la production de Mini NES. On évoquera également la démo de Prey sur console. Nous enchaînerons ensuite sur Microsoft et sa nouvelle politique concernant les remboursements. Et enfin, nous terminerons avec une petite discussion sur la fin de la génération chez les consoles. Allez, c'est parti, et on commence donc avec une news sur Hellblade. Une news pour nos amis PCistes, n'est-ce pas? À savoir que Hellblade sera DRM-free, eh oui. Et comme il sera DRM-free, où il va le débarquer, je vous donne dans le mille, sur Google Games. Ma foi, une très bonne nouvelle. À part ça, il y a une vidéo de gameplay qui a été récemment diffusée. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi, j'ai une interrogation avec Hellblade. Bon, parce que c'est bien gentil, tout ça. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux DRM-free, surtout quand c'est des jeux qui viennent d'un studio qui est pas petit, quoi. Mais quand même, moi, Hellblade, j'ai un petit problème avec ce jeu, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'est, en fait.
Oui. En fait, je pense que personne ne sait ce que c'est comme jeu. Si vous regardez la vidéo, vous avez l'impression de regarder une sorte de jeu d'action TPS, mais avec des armes blanches, extrêmement dirigistes en couloir, et c'est pas très très beau, et puis c'est pas très très intéressant, en fait.
Enfin, moi, ce qui me choque surtout, c'est la caméra, tu sais, qui est collée, mais
elle est trop proche, elle est beaucoup trop proche.
C'est violent, quoi. Enfin, y a aucune visibilité sur les phases d'action. Moi, de ce que j'ai compris en écoutant le gars, c'est que visiblement, ils ont l'intention de faire un jeu axé sur la narration. Visiblement, il y a de la baston et des puzzles, ok. Mais entre les deux, on fait quoi, en fait? C'est la grosse question que je me pose, quoi. Bon, à part ça, le jeu a l'air d'avoir une ambiance de ouf, mais ça suffit pas à faire un bon jeu, quoi.
Ça me fait penser un petit peu à Horizon. Ce genre un peu femme avec une tenue qui appartient à une tribu, je sais pas quoi.
D'un point de vue, tu sais, tout ce qui est caméra, tout ça, ça me fait penser un peu au dernier God of War. Avec une caméra qui lui colle au cul, des phases de combat, tu... Ok, d'accord, mouif, enfin voilà, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, et aussi ça me fait penser à Tomb Raider, au reboot qui ont été faits, cet aspect où il y a la caméra qui est passée par exemple au-dessus du personnage quand tu traverses un précipice, c'est-à-dire mettre vraiment l'accent sur les environnements, ce genre de choses-là, donc à voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est pas très beau non plus, c'est vachement gris, j'ai l'impression de revenir un peu à la génération PS3 360, où depuis qu'il y a Gear of War qui arrivait avec... cette couleur gris, on en a mangé, on en a remangé.
Il a quand même une direction artistique assez marquée, quoi. On peut pas y retirer ça.
Non, mais la direction artistique, elle est pas mal, mais c'est vraiment là en termes de rendu visuel, quoi, qui... Ça fait assez ancien, mais bon, après, je pense pas que le studio a un très gros budget vis-à-vis de ça. Si le jeu est bon et c'est des graphismes qui datent un peu, ça me dérange pas, quoi. C'est franchement... je préfère un jeu bon et pas très beau qu'un jeu beau mais vide, quoi.
J'espère en tout cas que quand on me parle de jeu narratif, on sera pas du côté The Order de la Force, si tu veux, et qu'on sera plus du côté Brothers Tale of Two Sons, par exemple, qui pour le coup arrivait à allier narration et gameplay. Là, j'ai vraiment peur, tu sais, qu'on se retrouve dans un jeu en couloir, mais vraiment, tu sais, couloir où il y a pas grand-chose à faire, à part avancer, quoi, et admirer le paysage. Bon, ça, c'est vraiment ça qui me fait peur, donc j'espère qu'en termes... d'interaction avec la manette, si tu veux, ils arriveront à produire quelque chose comme Brothers a pu le produire, quoi. Voilà.
Ouais, mais j'espère que ils vont pas tomber dans les sirènes aussi de l'open world, parce qu'il faut faire un open world. Enfin, toutes les licences maintenant, quasiment, c'est open world, open world, open world. On dirait qu'il y a que ça. Mais finalement, dans les moi, je préfère un jeu où c'est un couloir qui soit bien rythmé avec une bonne aventure qu'un open world chiant.
Non, mais qu'on soit clair, après, c'est pas vraiment l'aspect couloir qui me fait peur, c'est l'aspect couloir vide.
Oui, oui, non, mais je vois voilà. Ce que tu veux dire.
pour que ce soit plus clair, tu vois. Et qu'entre les deux, en fait, ce soit juste, oh là là, regarde mes décors, qu'est-ce qu'ils sont beaux mes décors, et qu'au final, il n'y ait pas grand-chose d'autre. Dear Lord, grant us guidance, and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. Feel better now? Enough!
upon the crown of the Umbra throne. It is time to finish that fight. Tell me where she is, now.
My, aren't you attached to our precious little one? Do you like it when she calls you mummy?
When the eyes of the world are within our grasp, the power of creation will be awakened. That is why the left eye, our treasured left eye, will never fall into the hands of another.
On va passer à la suite et on va maintenant parler de la sortie surprise de Bayonetta sur PC. Et oui, Bayonetta 1, évidemment, hein, parce que pour ceux qui en douteraient encore, je rappelle que le 2 a été financé par Nintendo, donc n'y comptez pas sur une quelque autre plateforme que ce soit, voilà. Mais Bayonetta 1 sort sur PC, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que, d'après les retours que j'ai pu lire, que ce soit sur Steam ou que ce soit sur des chaînes YouTube, comme par exemple celle de Dr. Chocapic, hein, avec The Game Cult, le portage est super bien foutu. Alors, mis à part une chose, apparemment, il y a un problème avec l'anti-aliasing qui ne fonctionne pas actuellement dans le jeu. Mais bon, sur PC, c'est pas trop un problème parce que tu peux dire dans les options de ta graphique qu'elle applique elle-même un anti-aliasing à la place de celui du jeu, quoi. Mais par contre, pour tout le reste, le jeu, il peut s'afficher en 4K, il tourne en 60 FPS, comme une horloge, il y a aucun souci. Apparemment même, ils ont retravaillé certaines textures et tout ça. Bref, le portage apparemment est super bien foutu, et ma foi, c'est une très 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 bonne nouvelle. Et ce d'autant plus que, d'après un communiqué de presse qu'a envoyé, je crois que c'est le vice-président du département marketing de Sega Europe, qui a dit que, attention, d'autres jeux allaient arriver. Vanquish, please, déjà, premièrement. Et deuxièmement, Sega, si vous pouviez, je sais pas moi, Yakuza Kiwami, par exemple, sur PC, ça me tente très bien, voilà.
Ouais, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, tu vois, enfin Bayonetta, je pense que si tu maintenant, tu peux le trouver aussi sur console à 5€ en occasion.
Ouais, mais ça, c'est vraiment une news pour les joueurs PC qui ne veulent pas entendre parler d'une console, quoi, si tu veux. Et même, cette version a un intérêt, parce que là, pour le coup... C'est la seule version qui tournera en 60 images secondes constant et sur laquelle il y aura jamais aucun problème, quoi.
Ouais, mais déjà, la version Xbox 360 et Wii, elle se rapproche pas mal des 60 FPS. Il faut juste éviter, en fait, la version PS3 qui est un peu moisie. Et du coup, ça, c'est cool. Et en fait, la meilleure nouvelle dedans, je pense que, mis à part Bayonetta, c'est des jeux de Sega qui arrivent sur PC. Après, je pense pas que ça soit Yakuza parce que je pense que Sony, je crois qu'ils ont de l'argent investi dedans. Donc
ah bon?
Ouais, il me semble, hein.
Parce que moi, il me semble que le modèle économique de Yakuza, c'est la publicité dans le jeu, que Sony a pas des bits dedans, mais après, je sais pas.
Après, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, j'ai hâte de voir les prochains jeux qui vont arriver, et puis c'est toujours mieux d'avoir des jeux comme ça qui arrivent sur PC plus tard que de nous sortir les jeux en version console, HD, remaster, je sais pas quoi, à 60 boules, tu vois.
Pixel, je crois que t'as craqué, toi, d'ailleurs.
Juste avant d'enregistrer l'émission, je l'ai acheté. Sur Steam.
Je suis faible.
Voilà, je suis faible. J'ai acheté à 19,90 ou 99, je sais plus. Enfin, bref, 20€, quoi. Et il fait à peu près 13 gigaoctets, là, téléchargé. Bon, je l'ai pas fait, hein, puisqu'on enregistre l'émission, mais je le ferai après, et...
Non, mais en vrai, de toute façon, même si on n'avait pas enregistré l'émission, tu aurais pas joué avant demain, avec ta connexion de merde. Donc...
Mais, voilà, j'en parlerai pour la prochaine émission, si j'arrive à l'heure, cette fois-ci. Ouais. D'accord. Ouf, aujourd'hui, tu sais, je suis arrivé à l'heure. Donc ça va, j'enregistre l'émission.
Tu es même arrivé une heure en avance.
Voilà.
Dans tous les cas, il y a une chose que je veux noter. Alors déjà, la première, d'après Platinum, ils seraient ravis que tous leurs jeux soient portés sur PC, mais apparemment, ça ne dépend pas d'eux. Donc, messieurs les éditeurs, voilà. Et autre chose que je veux noter quand même, c'est enfin la correction de, pour moi, ce qui était une incohérence totale, à savoir que Sega est un des plus gros éditeurs PC, et tous leurs jeux japonais, ils ne sortent pas sur PC. Je rappelle quand même qu'ils ont des studios comme Creative Assembly, Amplitude, Relic Entertainment. C'est des studios qui ont énormément d'importance sur PC. Et je ne m'expliquais pas jusqu'à maintenant comment un éditeur comme ça, qui a des équipes qui s'y connaissent en PC, ne profite pas de cette occasion pour sortir ses jeux japonais, alors qu'ils ont des concurrents, typiquement Bandai Namco, qui ont pris pour habitude depuis Dark Souls de sortir leurs jeux sur PC, et il y a de plus en plus de jeux japonais qui débarquent sur PC, et jusqu'à maintenant, Sega, tu pigeais pas en fait, alors que ils avaient quand même réussi à vendre 900 000 exemplaires de Valkyria Chronicle par exemple sur PC. Moi je m'étais dit ça y est, c'est la fête, à partir de maintenant tous les jeux Sega ils vont sortir sur PC, mais non. J'espère vraiment que ça annonce un mouvement de la part de Sega où le portage des jeux japonais sur PC va devenir systématique. Parce que pour moi, c'est une incohérence totale. Jusqu'à
ouais, mais après, moi, tout l'amour que j'ai pour Sega, ça a toujours été un peu des branques niveau communication et ce genre de choses-là. C'est-à-dire, je me souviens très bien, il y a plein de jeux qui sortaient en Europe, qui étaient traduits en plus à l'époque par Sega, où il y avait même pas de communication sur les jeux qui sortaient. Tu vois, par exemple, je me rappelle très bien de Yakuza. J'ai découvert le jeu par hasard en magasin. J'ai vu Sega sur la boîte, j'ai vu Yakuza, je me suis dit, bon, ça m'intéresse. J'ai pris le jeu, je me suis éclaté dessus. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient un bon jeu sur PS2, et en Europe, quand il est sorti, personne n'en a entendu parler. Et je pense que Sega, ils ont plein de pépites. Le problème, c'est juste qu'il faudrait qu'ils mettent les moyens sur, en termes de communication et de tout simplement de laisser les joueurs disposer des jeux sur plusieurs plateformes. Vu qu'ils n'ont aucun contrat avec un éditeur particulier, pourquoi pas, tu vois. Après, si c'est des jeux de commande, comme Platinum Games a fait avec Nintendo pour Bayonetta 2, c'est normal qu'on voit pas les jeux arriver sur la plateforme PC. Mais tant qu'il y a pas d'exclusivité sur une machine, il faut que les jeux soient disponibles sur le plus de supports possible.
Par contre, ce problème-là, c'est pas exclusif à Sega, parce que malheureusement, même si ça s'est amélioré, notamment depuis le succès de Dark Souls, il y a beaucoup de Japonais, encore aujourd'hui, qui n'ont pas le réflexe de sortir leurs jeux sur PC. Alors certes, le portage a un coût, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt non plus, mais je veux dire, t'as une plateforme qui a la même architecture que les consoles actuelles, pourquoi tu n'en profites pas? Et ce d'autant plus que tu as une boîte qui est spécialisée dans les jeux PC, quoi. Enfin, c'est, y a une incohérence. Après, enfin, ça a toujours été le talon d'Achille de Sega, si tu veux, à savoir que la branche américaine et la branche japonaise sont totalement indépendantes.
Ouais, mais c'est complètement con. Mais je veux dire, on parle de Sega. C'est quand même un des plus grands noms dans le secteur du vidéo. On parle pas d'un petit studio indépendant au Japon. Là, on parle de Sega. Et comme tu l'as dit, tu vois, Bandai Namco, lui, a très bien fait la transition. Pourquoi se priver d'un marché qui rapporte de plus en plus? Surtout que, voilà, les joueurs PC ont très longtemps été dépourvus de production nippon. Du coup, le fait que ça arrive, ils voient qu'il y a un certain public qui achète ce genre de choses-là.
Je veux dire, 900 000 exemplaires de Valkyria Chronicle, quoi.
Ouais, et on peut même aussi citer, Nier Automata qui a passé le million, tu vois, grâce au partage PC, donc il faut continuer à sortir les jeux sur cette plateforme-là, quoi. Vanquish, quoi. La pépite, la perle du TPS que personne a fait à sa sortie, mais c'est un très bon jeu. Il faut que ce jeu-là arrive sur PC, obligatoirement, quoi.
Voilà. Si ça peut donner une seconde vie à des jeux qui n'ont pas marché à l'époque, je signe, en tout cas. Bon, je vous propose qu'on enchaîne, et on va maintenant parler de Nintendo. Pour être plus précis, en fait... on va parler des escrocs qui vont bientôt se faire beaucoup d'argent grâce à Nintendo. Parce que il se trouve que Nintendo a annoncé que ça y est, ils arrêtaient la production de la Mini NES. Alors, pour être précis, c'est Nintendo America qui a parlé de ça. Il n'y a pas eu d'annonce officielle sur la branche européenne, mais d'après Le Monde, qui a publié un article sur le sujet, ils ont interrogé le directeur de Nintendo France, et apparemment, ça se confirme, hein, y compris en Europe. Et de toute façon, ça a été confirmé au Japon également. Donc il n'y aurait pas de raison que l'Europe soit la seule région du monde, si vous voulez, qui ne fasse pas ça. Donc malgré l'énorme succès de la machine, il semblerait que Nintendo veuille arrêter la production de la Mini NES pour faire un peu de place à la Switch, quoi, si vous voulez. Donc, j'espère que vous avez stocké vos Mini NES et que vous avez gardé l'emballage, comme ça, vous pourrez les revendre à prix d'or dans 6 mois sur eBay.
Ou sinon, vous pouvez jouer aux jeux NES sur émulateur, et voilà, ça vous coûtera moins cher. Mais sinon, mis à part ça, enfin peut-être que Nintendo, tu vois, ils ont eu peur que ça se vende mieux que la Switch. Non, ça c'est juste un petit troll, mais la Switch, là, en ce moment, on a eu les premiers chiffres américains, elle a dépassé le million, donc ça c'est plutôt bien que pour eux que ça fonctionne. Après, tu vois, le défaut de la NES Mini, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé en fait la demande selon le communiqué de Nintendo. Mais du coup, là, je me dis, Nintendo, ces salopios, là, d'ici un an ou deux, ils vont nous sortir une Super NES Mini. Ils vont prévoir un stock assez conséquent, je pense. Tu vois, bien plus boosté que la NES classique. Surtout que la Super Nintendo, c'est un peu une des consoles que les joueurs rétro kiffent le plus, quoi. Donc je pense que la Super NES Mini, s'il y a un choix judicieux de catalogue de jeux, là il y a un moyen qu'il se fasse encore beaucoup de pognon.
Bon Pixel, t'as mis une Mini NES de côté pour te payer ta future Scorpio.
T'as une Mini NES c'est honteux, je veux plus parler avec Pixel.
Il y en a pas, mais c'est voilà, en fait avec la Mini NES, c'est que quand elle était sortie, bon, ben voilà, il y a des gens qui l'ont vendue trop cher parce qu'elle était rare. Et on disait à l'époque, oui, mais vous inquiétez pas, en décembre, il va y avoir une nouvelle fournée, puis en janvier, il y aura une nouvelle fournée. Puis les nouvelles fournées, finalement, elles sont pas venues à point nommé, on va dire comme ça.
Bon, il y en a quand même une ce mois-ci, hein, donc vous avez encore une chance de faire
voilà,
des stocks.
Mais à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles fournées, c'était pas en assez grand nombre. Ouais, c'était au compte-gouttes. Et c'était pas toujours la date prévue ou annoncée, quoi. Enfin, en tout cas, la date que les gens pensaient à laquelle ça allait arriver. On se disait, ouais, mais vous verrez, de toute façon, quand il y aura des grosses fournées, les prix sur eBay ou ailleurs, ils vont baisser. Puis ça va revenir à 60€, voire même moins. Déjà, les prix ont jamais baissé. C'est-à-dire que t'as toujours trouvé sur le bon coin ou eBay des NES Mini à plus de 100€. Et là, on a la preuve que les prix vont rester les mêmes et vont augmenter dans les mois à venir. Donc ça va être la folie.
Ah, c'est
sûr. Voilà. Et pour Nintendo, bah, pour moi, ils ont deux raisons de l'arrêter. La première, c'est que il faut, ouais, c'est comme vous l'avez dit, il faut laisser la place à la Wii, enfin, à la Switch.
Oh, ce lapsus révélateur.
Et en fait, il a même pas dit la Wii U, il a dit la Wii. Donc, c'est-à-dire, ça fait depuis 2005.
La Wii. Attends. Dans la Switch, il y a du motion gaming, hein. Donc, c'est la Wii, hein. Tu vois, cette technologie du passé. Et la deuxième raison, ça c'est un avis un peu plus personnel, mais je pense que depuis qu'on a réussi, avec des petits malins, on réussit à craquer la NES Mini, peut-être Nintendo veut arrêter l'hémorragie et empêcher, on va dire, le gamer lambda qui traîne un peu sur Internet et qui se dit « Ah tiens, maintenant on peut pirater la NES Mini, moi je vais en acheter une et comme ça va être intéressant, j'ai pas besoin d'acheter de NES Mini 2 au cas où il y en aurait une qui sortirait. »
La NES Mini, ceux qui achètent ce genre d'objet, c'est plus pour... l'aspect visuel
collectionneur.
Et collectionneur d'avoir l'objet, parce que fondamentalement les émulateurs le font depuis bien plus longtemps, donc je pense pas vraiment que ça soit
surtout que je pense qu'un jeu NES, c'est bien plus agréable d'y jouer par exemple sur une PSP que sur un écran ultra wide HD
voilà,
qui fait saigner des yeux,
ça c'est clair, parce que déjà rien que sur ton écran et tout ça, c'est dégueulasse. Après bon, j'avais vu un petit peu à la sortie, tu sais, ils avaient fait des filtres et tout ça pour rendre un peu la chose un peu plus lisible et un peu moins flou, surtout sur les écrans plats qu'on a aujourd'hui. Mais le problème, en fait, c'est que je pense que cette NES Mini, ça va juste donner, en fait, de plus en plus d'idées pour la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Super Nintendo, la Nintendo 64 Mini, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où ils peuvent plus faire ça en quantité. Je pense pas qu'une GameCube Mini puisse arriver, mais d'ici 10 ans, peut-être, tu vois, ce genre de choses-là.
Une Game Boy Mini édition spéciale Pokémon.
Ah oui. Non, mais
Game Boy
voilà, attends, j'aurai des idées.
J'ai plein d'idées pour vous, les mecs, si vous voulez. On s'appelle.
Ou bien sinon, tu vends la Game Boy Mini spéciale Pokémon plus Amiibo exclusif à cette édition-là, et là t'es...
Oh là là.
Là tu fais le jackpot.
Attends, mais il pourrait ressortir aussi le Virtual Boy Mini.
Ah non.
Oh là là,
non.
Le collector.
Le collector.
Sur la machine, il n'y a pas plus de 10 jeux qui sont sortis, donc...
Ah bah, t'auras toute la ludothèque d'un coup.
T'auras toute la ludothèque, mais t'auras plus de yeux par contre.
Ah bah, ça c'est sûr.
C'était tellement dégueulasse.
Bon. Allez, on passe à la suite, messieurs.
Yes.
Mm-hmm.
On va maintenant évoquer Prey. Alors, ça ne vous aura pas échappé, Prey va bientôt sortir, n'est-ce pas? Je rappelle que Prey est un jeu arcane, et Dishonored 2 aussi. Sauf que Prey a été développé à Austin, alors que Dishonored 2 a été développé chez nous autres français, n'est-ce pas? Prey va se doter d'une démo. Elle sortira le 27 avril, soit 8 jours avant la release. Ma foi, c'est une bonne nouvelle. Parce que je rappelle quand même la politique de Bethesda, hein, c'est-à-dire que Bethesda ne laisse pas les sites internet publier leurs tests avant la sortie, donc qu'ils laissent essayer leur jeu, ma foi c'est heureux, quoi, on va dire. Par contre, cette démo ne concerne que les consoles. Il n'y aura pas de démo sur PC. Et là, mes petits amis de chez Bethesda, bon, comment vous dire, après le cataclysme qu'a été Dishonored 2 sur PC, je trouve que vous faites un choix mais absolument couillon, parce que pour le coup, s'il y a bien une plateforme où les gens vont se méfier de ce que vous avez à proposer, c'est le PC, parce que vous avez une politique de communication qui est absolument désastreuse, on ne peut pas se faire un avis sur l'état technique de vos jeux avant qu'ils sortent, et en plus de ça, eh ben voilà, vous avez fait de la merde sur Dishonored 2, donc c'est une grossière erreur à mon avis, mais écoutez, si vous voulez pas vendre vos jeux, c'est pas grave, il n'y a pas de problème.
Et après je me dis peut-être... que soit la version est dégueulasse et qu'ils veulent pas la montrer sur PC,
voilà.
Soit ils ont peur que certaines personnes craquent le code du jeu et dévoilent, je sais pas, des événements scénaristiques ou des trucs qui sont cachés dans le code. Après, enfin, encore, il n'y avait pas eu de démo sur console, j'aurais dit ok, mais Je trouve ça assez débile. Après, moi, tu vois, vu que j'ai une PS4, je vais certainement télécharger la démo pour voir ce que ça donne, parce que pour le coup, je suis pas du tout convaincu par ce jeu-là, et peut-être que la démo, ça va me donner envie d'y jouer. Et en plus de ça, je pense que vraiment, après, c'est un jeu fait plus pour PC que sur console, tu vois, un peu comme Dishonored. C'est dommage, quoi.
Prey s'inspire ouvertement de System Shock. C'est une suite spirituelle à System Shock, ils l'ont dit 36 000 fois. System Shock, c'est quoi? C'est une licence PC. Bon. Et on ne sort pas de démo pour ce public-là. Bah écoutez, très bien. Continuez, Bethesda. Surtout que vous avez une super réputation en ce moment. Continuez. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, on va maintenant parler de Microsoft. Qui va probablement, alors c'est une hypothèse, hein, notez-le bien, mettre en place un service de remboursement. Il y a des gens qui ont accès aux versions preview de la nouvelle interface Xbox, et apparemment, sur cette interface, il y a un service de remboursement en fait. Visiblement, ce service aurait les mêmes règles que le service de remboursement sur Steam, à savoir que il faut y avoir joué moins de 2 heures, et il faut avoir acheté le jeu depuis moins de 14 jours. Ce qui, ma foi, est une très bonne nouvelle pour les consoles, parce que je trouvais ça anormal que jusqu'à maintenant, sur console, on n'ait pas de service de remboursement pour les jeux en dématérialisé, et peut-être que ça incitera un peu plus de gens à acheter en démat. Voilà.
Moi, en tout cas, ça va pas m'inciter à acheter mes jeux en dématérialisé sur console, hein, parce que... Enfin, je veux dire, si j'achète un jeu, je préfère avoir la version boîte. Enfin, j'ai jamais compris comment le marché du dématérialisé sur console pouvait percer à ce point-là, vu que... La version dématérialisée a tous les inconvénients que la version boîte n'a pas. C'est-à-dire que tu t'achètes un jeu en version boîte, tu continues à y jouer, et une fois que t'as fini ton jeu, bah tu peux le revendre déjà. C'était un jeu sympa, mais sans plus.
Je rappelle qu'ATH est un adepte de la revente de jeux. Hein.
Bah ouais, moi, dès qu'il y a un jeu, il me plaît pas, je le revends. Et une fois que j'ai surkiffé un jeu, je veux le garder en version boîte, parce que je collectionne beaucoup. Mais à part ça, acheter un jeu en dématérialisé, s'il y a une version boîte, je vais toujours préviser la version boîte. Après, je trouve ça bien que Microsoft... propose un remboursement sur les Xbox One qui va arriver probablement d'ici peu, mais le problème c'est que j'ai vu que ça gueulait pas mal sur internet, parce que les indépendants ils étaient contre cette politique là en fait, parce qu'ils gueulaient parce que du coup ils ont dit que leur jeu allait être téléchargé et que les gens allaient demander des remboursements, et ils sont contre cette chose là mais bon, entre guillemets, la raison évoquée c'est que les indépendants font des jeux plus courts que les AAA, enfin, des petits jeux de plateforme et tout ça, et ils disent les gens ont le temps de faire la moitié du jeu puis se faire rembourser, et du coup ils sont contre.
Moi ce que je réponds à ça c'est que si des gens jugent que ton jeu ne vaut pas le coup d'être terminé, c'est qu'il y a peut-être un problème.
Ah mais ça c'est sûr, après j'ai envie de voir si vraiment Microsoft va appliquer cette règle là au fur et à mesure du temps quoi, parce que pour l'instant c'est pas mis en application quoi. Ce que j'aime bien c'est que ça évite les mauvaises surprises où tu achètes un jeu et par exemple admettons, tu vois, là je te prends même pas le cas d'un jeu indépendant, mais je vais te prendre le cas par exemple de Prey qui va sortir sur console. Admettons voilà, Prey sort, il est buggé de partout et toi t'as envie d'avoir un jeu fini et tu dis non bah je suis contre les jeux buggés, je veux me faire rembourser mon jeu, et puis bah tu te fais rembourser ton jeu parce que ton jeu n'est pas fini. Ou bien même par exemple Mass Effect Andromeda, tu sais que les développeurs ils vont faire des patchs et tout ça, ça va s'étaler sur un an, tu vois, ils font un peu à un FF15, du coup tu te dis bah ok bon bah je veux me faire rembourser mon jeu, et du coup bah quand le jeu sortira en version définitive beaucoup moins cher, bah je prendrai, dans ce cas là je prendrai une version moins chère et avec tous les patchs faits quoi.
Justement, sans transition, tu parlais du dématérialisé, ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps, n'est-ce pas, notamment quand la Scorpio a été dévoilée, et cette réflexion elle consistait à ceci quand même. Bon, la Scorpio, elle annonce un peu, quelque part, la fin des générations de consoles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors, certes, sur console, je sais bien qu'on est attaché à l'aspect générationnel de la chose, parce que, tu vois, à chaque fois, on renverse la table. Mais je me disais que, quand même, le fait de ne plus avoir de génération de consoles, ça pouvait quand même avoir cet avantage que maintenant, sur console, on pourra garder nos jeux d'une génération à une autre, et notamment... Par exemple, les jeux dématérialisés, qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et finalement, est-ce que vous pensez que les générations de consoles, c'est fini et que, voilà, à partir de maintenant, il n'y en aura plus ? Et est-ce que vous êtes fondamentalement hostile au principe ?
Je pense vraiment que, par exemple, le PlayStation 5, Xbox One, 2, 3 va sortir. Pour une seule et bonne chose, c'est que je pense que ça va être gardé pour des raisons marketing, en fait. Par exemple, quand tu sais que c'est une PS5 qui va sortir, et pas une PS4 Pro, une PS4 Pro Plus ou je sais pas quoi. Du coup, je pense que pour un choix totalement marketing, ça va aller dans ce sens-là. Après, le fait que il y a des générations de consoles et des consoles qui arrivent en plein milieu, je pense que voilà, ils essaient de s'inspirer un peu, tu sais, des smartphones, et notamment de Apple avec ce qui est de iPhone 5, avec iPhone 5S, etc. Donc du coup, ça reste toujours la même génération de téléphones. Et après, quand t'as le iPhone 6 qui arrive, et bah tout le monde va sur le iPhone 6. Et du coup, il y a, c'est une génération intermédiaire.
Oui, mais par exemple, quand tu achètes un iPhone 6, ton iPhone 6 fait tourner les applications qui tournent sur l'iPhone 5. Il y a quand même une différence, quoi, si tu veux.
Oui, mais je pense vraiment que, tu vois, par exemple, les jeux PlayStation 5 ne tourneront pas sur PS4, tu vois, et que il faudra vraiment passer sur la PlayStation 5 pour pouvoir avoir le jeu qui va tourner sur cette machine. On va pas se rater à la PS4 Pro, et après on aura des PS4 Pro Plus, PS4 Pro Plus Plus.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que, par exemple, ta PS5,
ouais.
Ok, marketingement parlant, ça sera une nouvelle génération de consoles. Il faudra bien, si tu veux, qu'on fasse un gap technique à un moment donné. Parce que c'est ça aussi le problème. À quel moment, en fait, tu dis, ok, cette console, on la supporte plus.
Mm.
Parce que on a besoin que ça évolue techniquement, tu vois, et PS4 fat, c'est plus possible, quoi. Enfin, on peut plus la supporter. Et moi, je pense que on aura des générations de consoles artificielles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir de tel instant, on va te dire que, ok, la PS5 est sortie et tous les jeux PlayStation 5 ne sortiront plus sur PlayStation 4. Mais par contre, j'ai tendance à penser que, avec un peu de chance, on croise les doigts, tout comme l'iPhone 6 fait tourner les applications de l'iPhone 5, ta PS5 fera tourner tes jeux PS4, parce que même si on a dit que les jeux des nouvelles consoles ne supportaient plus les anciennes machines, fondamentalement, c'est la même architecture, c'est le même OS, et que ça peut le faire tourner, quoi.
Moi, je pense que, en termes de catalogue de jeux, ça, c'est une bonne chose. Et le fait que ça soit une continuité et que la génération soit terminée, qu'on parle plus vraiment de génération, mais plutôt de, d'actualisation des machines, moi, ça me dérange pas, en fait.
Mm.
Mais le seul truc que je voudrais pas, c'est que, ils décident d'avoir la même architecture que la PS4 améliorée, entre guillemets. Et que, du coup, quand la PS5 arrive, ils te disent, oui, ben, on peut plus lire les jeux physiques sur la console, mais du coup, t'es obligé de les repayer sur le PlayStation Store, et c'est-à-dire même.
Qu'on te fasse repasser à la caisse, quoi.
Voilà. Et ça, du coup, ça serait du foutage de gueule, quoi.
Après, on peut très bien imaginer que ta liste de jeux est déjà enregistrée et que fondamentalement, t'as plus qu'à les télécharger après, quoi.
Oui, mais du coup, ça marcherait que pour les jeux que t'as téléchargés en dématérialisé.
Mais non, pas forcément. Ils peuvent récupérer la liste de jeux sur ta machine, fondamentalement. C'est pas un problème, techniquement.
Bah non, parce que s'ils font ça, ça veut dire que tous les jeux que t'as mis une fois dans ta machine, tu pourras les télécharger, même si t'as plus le jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas faire ça.
Après, on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y a un code qui soit lié au truc. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça serait compliqué un peu la chose. Ouais, non, du coup, t'as cassé tout mon truc, là, TH.
Ah, bah, je suis désolé.
C'est formidable, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais pas envisagé cette possibilité, en fait.
Ah ouais, mais enfin, toi, t'allais penser que ça allait être formidable, mais bon. Après, on connaît les grosses compagnies qu'on a en face, hein. C'est pas des bénévoles, ni des enfants de cœur. Donc, je pense que la seule chose qui compte pour eux, c'est la rentabilité, rentabilité, rentabilité. Et qui dit pognon dit argent. Donc, je pense qu'il s'il peut, y a un moyen de nous la mettre à l'envers. Et que si le joueur râle pas trop,
après, enfin, tu sais, fondamentalement, c'est comme ça que fonctionne Steam. Hein. Je veux dire, demande à Pixel si elle arrive d'acheter des jeux PC en boîte.
Ouais.
Ton jeu PC, tu peux pas le revendre après. Hein. Corrige-moi si je me trompe, Pixel. Hein.
Non. Ouais. Aujourd'hui, 99% des jeux PC que t'achètes en boîte sont à destination de Steam, donc avec un code unique et donc que tu peux plus revendre
après.
Voilà. Et je parle même pas des anciens jeux d'il y a quelques années qui étaient pour le Game Windows Live. Qui eux sont définitivement morts. Tu peux même plus les utiliser. Certains ont été portés sur Steam, les plus rentables, on va dire. Mais je veux dire, une grande majorité des jeux Games for Windows Live aujourd'hui sont injouables, dans tous les sens du terme.
Ouais. Et d'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, il y a rien sur les galettes, en fait. Il y a un téléchargement qui se fait après, en plus, quand tu fais l'installation, quoi. Des jeux que t'achètes en boîte.
Voilà. Ça, c'est de plus en plus courant. C'est que, ouais, sur la plupart des jeux PC, maintenant, en physique, ouais, t'as 5-6 DVD, tu installes tout ça, et généralement, t'as 1, 2, 3, 4 gigas en plus à télécharger. Ces 4 gigas-là, ils auraient pu le mettre sur une galette supplémentaire, mais ils l'ont pas fait. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est pour des raisons économiques. Alors, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, vu le prix que ça coûte
à mon avis,
un
c'est
DVD...
plus pour s'assurer, justement, que tu puisses pas le revendre, et que tu doives avoir une connexion Internet pour télécharger ce qui reste, quoi.
Voilà, que tu télécharges légalement ce qui reste en ayant acheté légalement la version physique. Et mais de toute façon, ça empêche pas certains jeux de toute façon de se retrouver sur les réseaux underground et d'avoir été piratés. Ça ne change rien. Enfin, c'est une fausse excuse, j'ai envie de dire. Et...
c'est une fausse excuse pour casser les couilles.
Voilà, pour casser les couilles. De toute façon, ce genre de technique, ça casse les couilles qu'à ceux qui ont acheté le jeu,
ouais.
Pas à ceux qui le téléchargent illégalement.
Ce que je trouve encore pire... c'est que tu achètes une version boîte et qu'il y a juste le code de téléchargement dans la boîte, en fait. Du coup, si t'as pas la fibre et que tu télécharges des jeux qui font maintenant 50 gigas, 60 gigas, quand tu dois télécharger des gros contenus, des gros volumes qui pèsent plusieurs cinquantaines de gigas, ça fait un petit peu mal, quoi. Surtout que tu peux pas le revendre derrière.
Ouais, bah c'est le cas du dernier Mass Effect Andromeda. J'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'aller en magasin et de le voir en boîte sur PC. C'est bien marqué version digitale avec un code d'accès à l'intérieur. La boîte elle est vide.
C'est à se demander pourquoi tu vas l'acheter en magasin, quoi.
Voilà, donc à 60€ la boîte vide, ça fait chier quand même. On les comprend pas en fait ces gestes-là, mais du point de vue des éditeurs et des actionnaires, tout ça, c'est une histoire de gros sous. S'ils veulent pas mettre la version physique dans les boîtes PC, c'est qu'ils ont leurs raisons. Et c'est toujours des raisons financières.
Ouais. Bon, dans tous les cas, Atia, je ne te remercie pas, tu m'as cassé tout mon raisonnement. Je m'imaginais que en mettant ton CD, tu identifierais le jeu et que du coup, tu pourrais télécharger. Mais c'est vrai que ça fonctionne pas comme il n'y a pas de DRM.
Après, Microsoft l'a fait sur la Xbox One, ça. C'est-à-dire que tes jeux 360, tu mets ta galette dans la console et du coup, tu peux retélécharger les jeux qui sont rétrocompatibles en dématérialisé sur la Xbox One pour y jouer, quoi. C'est possible, quoi. Ça existe aujourd'hui. Tu vois, Microsoft le fait, mais est-ce qu'ils le feront pour la prochaine génération de consoles? Est-ce que Sony le fera? Surtout si Sony continue à vendre des jeux et...
à être tout seul sur le marché.
Voilà, c'est ça. Si Sony continue à être tout seul, je pense pas qu'ils vont faire des trucs et nous feront des cadeaux, quoi.
Oh, bon, en tout cas. Voilà, je pense que d'un point de vue des maths, ça pourrait être intéressant, parce que moi, bon, fondamentalement, moi je suis pas forcément hostile au dématérialisé. Mon gros problème avec le dématérialisé sur console, c'est que autant que moi, quand j'achète un jeu sur PC, j'achète un nouveau PC, il y a pas de problème, tu vois, je peux retélécharger mes jeux derrière. Et c'est toujours moi ce qui m'a bloqué fondamentalement sur console, c'est que t'achètes des jeux et le jour où ta console elle tombe en rade, bah t'es niqué, quoi.
Bah non,
en fait.
Bah non, parce que tu retélécharges avec ton compte.
Non mais peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginons, on est dans 15 ans,
ouais.
Tu peux pas t'acheter la PS10, on va dire, et avoir tes jeux dessus, quoi.
Ouais, bah oui, après c'est en fonction des... Bah on va dire si l'hardware et l'OS de la machine restent le même et que c'est juste des évolutions, ça pourrait être envisageable. Mais si c'est une refonte totale de l'OS et l'architecture aussi de la console qui change, bah ça marchera pas.
Et en plus sur PC c'est pas systématique, hein. Je veux dire, essaye de jouer à des jeux Windows 95 sur le PC actuel, il faut des programmes tiers pour que ça marche.
Ouais, mais bon, sur PC t'as toujours cet avantage où tu peux bidouiller et il y a toujours des trucs qui te permettent de faire tourner le jeu comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de point and click qui ne tournent pas sur les machines actuelles. Du coup, en fait, tu lances un émulateur entre guillemets qui émule un OS de l'époque qui te permet de faire tourner le jeu. Après ça, tu vois, sur PC ça va, c'est pas trop dérangeant, tu peux bidouiller, mais sur PS4 ou sur Xbox ou même Nintendo, tu ne pourras pas faire ça, quoi. Ouais. C'est impossible, c'est des boîtes fermées, donc tu ne pourras pas le faire. Et du coup, moi ce que j'aimerais bien en fait, c'est que on garde les identifiants que tu as depuis la création de ton compte sur une console et que tu puisses avoir accès au catalogue. Franchement, je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction-là. Si ils peuvent te faire recraquer pour Uncharted 2 sur PS5 et après la PS6 et la PS7, ils te le feront, quoi. Bah t'as qu'à voir l'état actuel des jeux PlayStation 1 qui sont vendus en démat sur le PS Store. Les Final Fantasy, c'est vendu 10€. Clairement, ça, c'est des jeux, je pourrais mettre une pièce, tu vois, pour 2€. Je pourrais le télécharger sur le PS Store. Parce que pour 2€, je me dis, ouais, 2€, tu vois, c'est quoi? C'est un café. Mais quand c'était des jeux comme ça, 10€, ça me fait un petit peu chier, quoi. Surtout après, si je veux le garder sur ma PS4, c'est pas possible parce qu'il a été fait sur PS3, donc du coup c'est un merdier pas possible. Et ça serait bien en fait vraiment qu'ils puissent mettre tout ça à jour et unifier tout leur bordel, quoi.
Bon, alors dans tous les cas, finalement on a assez peu parlé de l'intergénération des consoles, mais je crois qu'on a un peu parlé aussi parce que en fait c'est de la merde, quoi. Enfin ça par contre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais moi ce qui me fait très peur avec l'intergénération par contre, c'est le côté, tu sais, on va te sortir des jeux qui seront optimisés pour les nouvelles consoles, mais sur les anciennes, ça tournera la piste. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, notamment avec Horizon, par exemple. Mais on a déjà vu, par exemple, avec la 3DS, ouais, voilà, je le ressors tout le temps, mais c'est l'exemple le plus marquant. Hyrule Warriors qui tourne à la piste sur l'ancien modèle de la 3DS, bon, voilà, quoi. Je trouve que ça va à l'encontre de la philosophie des consoles, ça, par contre.
Si tu veux arrêter de taper sur le doigt de ce pauvre Hyrule Warrior, je peux te donner un autre exemple de jeu qui marche mieux sur la New 3DS et qui est totalement haché sur la 3DS classique. C'est Monster Hunter qui était sorti sur 3DS où le jeu sur la 3DS classique, il rame à mort. Donc du coup, c'est pas très agréable à jouer. Mais ce que je trouverais encore pire que tout, ça serait un peu le cas aussi qu'ils avaient fait Nintendo. Ils l'ont fait qu'une fois, hein. C'était Xenoblade Chronicle qui était ressorti sur New 3DS et que sur 3DS classique, tu ne l'avais pas. Du coup, imagine, par exemple, sur PS4 Pro ou bien Xbox Scorpio, on te sort le jeu. Et du coup, on te dit non, ce jeu-là, il est exclusif PS4 Pro ou bien ce jeu-là est exclusif Scorpio. Et sur cette console-là, tu pourras pas le faire tourner. Bon, après, ça serait se tirer une balle dans le pied de la part des éditeurs parce que ça serait complètement con de se priver d'un marché de plus de 40 millions de consoles. Mais le problème, c'est que s'ils veulent forcer les gens à passer à l'acte, ils peuvent le faire, te forcer un petit peu à ça. Après, les gens, je doute qu'ils vont gueuler un petit peu.
Ouais, parce que c'est ça, moi aussi, qui me faisait. Par contre, c'était le pendant négatif. De ce que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que autant je pense que peut y avoir des bénéfices d'un point de vue des maths, le fait de pouvoir conserver ces jeux, tout ça, ce qui n'est pas fait, hein, c'est juste une hypothèse. Mais pour eux aussi, je pensais que si ça se trouve, à un moment donné, on n'allait plus avoir de nouvelles générations de consoles, parce que ça te permet de t'obliger les gens à acheter une nouvelle console tous les 3 ans, parce que tous les 3 ans, ben on va te dire « Ah, mais ce jeu, en fait, il marchera pas sur l'ancien modèle ».
Après, tu vois, enfin, j'avais très peur au début pour Horizon Zero Dawn. J'avais peur qu'il tourne pas bien sur PS4 classique. Et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que même sur PS4 classique, le jeu, il reste vraiment très très beau. Il tourne nickel. Et il y a pas vraiment de grande différence avec la PS4 Pro. Du coup, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et bien, en même temps, ceux qui ont la console, bah, leur jeu, il tourne nickel. Et ceux qui ont la PS4 Pro, bah, finalement, le jeu est un peu plus fin, un peu plus détaillé. Mais ça reste vraiment des détails. Et c'est pas ça pour moi qui va faire que le jeu est meilleur ou pas, tu vois.
Et d'une manière générale aussi, ce qu'on a observé chez les éditeurs, parce que bon, je veux dire, là, c'est un studio first party, donc c'est normal qu'ils polichent un peu le truc, quoi, tu vois. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que la version de base, c'est la version slim, quoi, et que quand ils veulent, ils mettent un truc en plus sur la version pro, et c'est loin d'être systématique, quoi. Donc, pour ceux qui ont la slim, c'est une bonne nouvelle. Après, pour ceux qui ont la pro, pour le coup, je suis pas sûr que, voilà.
Bah après, t'as le cas, par exemple, de... Pour Nioh, par exemple, ou sur la version pro, tu peux mettre tu vois, le jeu en 60 FPS, ouais. Avoir une résolution de 1080p,
ça, c'est cool,
ça. Donc ça, c'est bien, si tu veux, ça t'apporte un confort supplémentaire, mais... Il faut vraiment que déjà que le jeu de base, il tourne nickel à 30 FPS sur la console d'origine. Et il y a un truc sur laquelle la Xbox One Scorpio a l'air plus intéressante que la PS4 Pro, c'est qu'ils vont faire un upscale natif des jeux pour qu'ils tournent à 60 FPS, 1080p, que ça soit des jeux 360 ou Xbox One première génération, tu vois. C'est pas comme sur PS4 Pro où il y a un mode boost qui arrive sur la machine pour booster un peu les performances des jeux qui étaient sortis avant et qui n'ont pas eu de patch pour la PS4 Pro.
Et où tu vois pas forcément la différence parce que... Par exemple, Bloodborne, typiquement, tu vois quasiment aucune différence, alors que Dieu sait que ce serait un jeu qui aurait besoin de tourner à 60 images secondes, quoi.
Bah après, pour Bloodborne, t'as un jeu sur la PS4 Pro qui tourne à 30 FPS maintenant et qui les maintient.
Ouais, mais tu vois, on aurait pu imaginer une version pro qui soit à 60 images secondes. Ça aurait pas été négligeable, quoi, quand même. Surtout sur un jeu aussi speed, voilà.
En tout cas, la Scorpio, ça, du coup, c'est bien. C'est-à-dire de refaire tes jeux Xbox 360 et Xbox One dans des conditions optimales, tu vois. C'est-à-dire d'avoir un truc qui est en 1080p et pas du 720, ce genre de choses-là. Et ça, du coup, ça peut être intéressant pour les fans de Microsoft, quoi. Ça peut être bien.
Bon, allez, on s'arrête pour cette semaine, messieurs.
Yes.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Ciao.
Je pleure pour toi, Julien Chiez.
Oh là là, mais laisse-le tranquille.